des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
La COVID-19, ça nous touche toutes. Il y a toutes sortes de monde impliqués. Et il y a un domaine qu'il faut en parler. Il y en a qui vont dire qu'ils ne seront pas intéressés à ça, mais c'est très important d'en parler. Le milieu carcéral, on sait qu'il y a des gens qui sont détenus et c'est des milieux fermés. Qu'est-ce qui arrive si un détenu est infecté? Comment on réussit à gérer cette propagation-là? On le sait, dans la communauté, on préconise la distanciation sociale, mais comment on fait? On en parle avec Rita Magloé-Francis. C'est Maître Rita, pardon, Magloé-Francis, qui est présidente de l'Association des avocats et avocates en droit carcéral du Québec. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est comment ça fonctionne? C'est quoi vos craintes en ce moment avec la COVID-19?
Ben, en fait, ce que je peux vous dire, c'est que tant au niveau des prisons provinciales que des pénitenciers fédéraux, tous les détenus sont dans un état vraiment de crainte. Ils ont des réelles craintes, compte tenu comme on le sait, il y a des officiers, des gardiens qui sont allés en vacances durant la semaine de relâche et qui ont eu des contacts avec des prisonniers avant que les mesures de confinement soient obligatoires ou soient en fait facultatives pour certains. Mais les détenus ont vraiment peur que les officiers apportent le virus en détention d'abord.
C'est ça, en détention, parce que c'est un milieu fermé, donc c'est la crainte. Une fois que le virus arrive, on s'attend à une propagation assez rapide là, avec les détenus. Là. C'est dur de les isoler.
Bien, en fait, là, en ce moment, il y a des secteurs, des prisons, puis certains pénitenciers qui ont commencé à faire du confinement parce qu'il y avait des cas suspects. Mais c'est certain que dans les prisons, par exemple, provinciales, il y a beaucoup d'insalubrité. Les gens sont très près l'un de l'autre. C'est certain que les mesures de distanciation sociale sont impossibles à appliquer. Mm-hmm. Dans les prisons, dans les pénitenciers fédéraux, ça diffère d'un pénitencier à l'autre, mais il y a encore des pénitenciers, en fait, un pénitencier au Québec, un pénitencier à Chambault, où il y a encore des cellules doubles. Alors, ce sont deux dans la même cellule. Pour certains, c'est impossible d'appliquer les mesures de distanciation.
OK. Et que ce soit dans un pénitencier fédéral ou provincial, on sait que les pénitenciers fédéraux sont mieux adaptés, je pense, pour les gens qui sont là à long terme. Mais est-ce que ils se réunissent? Je veux dire, ils mangent à la même place? Comment ça fonctionne?
Ben, je veux juste vous reprendre, vous dites que c'est mieux organisé au fédéral. Ce qu'on a vu dans les dernières semaines, c'est que le fédéral était toujours en retard dans les mesures. Les prisons provinciales ont adopté des mesures dans les prisons. Et par exemple, quand ils ont coupé les visites familiales, les visites d'avocats, le provincial a adopté des mesures beaucoup plus rapidement que les pénitenciers. Bon. Alors, c'est pas parce que c'est fédéral que c'est... C'est parce que oui, les peines sont plus longues, il y a peut-être moins d'insalubrité que dans les prisons provinciales. Dans les prisons provinciales, surtout, des fois, ça rentre et ça sort. Il y a aussi des itinérants qui ont des courtes peines.
On va faire la blague, c'est comme le Québec a agi plus vite que le fédéral aussi, mais on comprend bien que c'est ça, c'est pas parce que c'est fédéral que c'est nécessairement plus adéquat. Mais comment ça fonctionne à l'intérieur des murs, les détenus, là, je veux dire, ils ont des cellules, comme vous dites, il y en a qui sont deux encore, sinon ils sont isolés. Est-ce qu'on peut seulement décider de les laisser dans leurs cellules et de leur apporter la nourriture ou?
Mais en ce moment même, il y a certaines prisons, certains pénitenciers qui adoptent des mesures de confinement, c'est-à-dire que les prisonniers sont dans leur cellule 22 heures sur 24. Mais je vous avoue, bien humblement, je ne sais pas pendant combien de temps ils vont pouvoir garder des détenus enfermés 22 heures sur 24 sur des semaines et des semaines, parce que la Cour suprême a jugé que c'était cruel et inusité de garder des détenus 24 heures sur 24 pendant une longue période.
J'imagine, où, c'est comme le trou qu'on appelle. Là. C'est
oui,
de d'isoler.
Pratiquement comme le trou. Oui.
Ben oui, puis
bon. Parce que... Il y a des gens qui peut-être qui trouvent ça long en ce moment d'être confinés à la maison, là, mais imaginez dans une cellule où on a en fait pratiquement on n'a pas de cellulaire, on n'a pas Internet, on n'a pas parfois on a une petite télé avec des postes, mais on surtout on n'a pas de contact avec notre famille, ni par téléphone, mm-hmm. ni on est seul, là. Le temps est très long. Là.
Ah non, on n'est pas...
C'est horrible. Là.
Non, c'est ça. C'est pour que la Cour suprême dise que c'est cruel, inusité. Pour nos auditeurs, là, ceux qui pensent que c'est comme être là à la maison puis que chacun fait son effort à la maison, oui, on comprend, mais les gens peuvent sortir et c'est déjà difficile à la maison. Mais là, on parle de garder quelqu'un dans une pièce close là, tout, pendant des heures, on comprend bien.
C'est pour ça, si vous me connaissez, c'est pour oui. ça que mon association et plusieurs associations appellent, en fait, interpellent le gouvernement pour qu'il adopte des mesures plus radicales, comme certains pays l'ont fait, c'est-à-dire libérer massivement par anticipation certains détenus qui rempliraient certains critères. Des pays, on l'a vu aujourd'hui, des pays comme l'Afghanistan l'ont fait, en Europe, il y a certains pays qui l'ont fait. Aux États-Unis, certains États mmh. l'ont fait. Nous, on a pris position, notre association, que c'était la mesure, une mesure que le gouvernement devrait étudier de manière urgente avant que le virus
se propage.
Qu'on trouve des cas et que ça se propage comme une traînée de poudre. Là.
OK. Donc, je comprends bien, c'est ça. En prévention et dans le cas que ça s'aggrave, une des solutions, bon, on comprend, bon, de confiner les gens dans leurs cellules, mais c'est aussi de libérer certains détenus, parce qu'on ne peut pas libérer n'importe qui, là, si je comprends bien. Là.
Non, évidemment, on ne peut pas libérer des criminels dangereux, mais il y a certainement certains... c'est très facile d'adopter certains critères qui permettraient de libérer des détenus, par exemple, des détenus qui ont plus que 70 ans, mm-hmm. des détenus qui ont des maladies chroniques, des détenus qui, de toute façon, seraient mis en liberté dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Les détenus qui ont des profils de personnes non violentes ou des détenus qui ont démontré par le passé qu'ils ont respecté des conditions de remise en liberté, ça serait très facile d'établir des critères qui permettraient de libérer libérer des détenus mm-hmm. sans mettre en danger effectivement la sécurité publique, parce que c'est pas ça qu'on veut.
C'est pour ça que c'est important de le dire à nos auditeurs, c'est pas de libérer des gens puis de mettre en danger, là. Ça serait fait d'une manière adéquate. Et c'est certain qu'on se cachera pas qu'il y en a qui n'ont pas de sympathie pour les détenus, mais ils ont des droits. Et imaginez quelqu'un qui a fait une erreur de parcours dans sa vie, qui purge sa peine et qui paye sa dette à la société. C'est pas une raison non plus de la laisser enfermer puis qu'il y ait des morts en prison parce qu'on fait rien, là, dans le fond.
Non, mais c'est aussi une mesure. Je suis bien consciente que c'est pas nécessairement une mesure qui est sympathique, mais c'est une mesure de santé publique générale. Parce que de toute façon, si je prends l'exemple d'un détenu qui, de toute façon, serait libéré dans un mois, ben on va le libérer peut-être au pire de la pandémie, alors que peut-être il aurait été en contact avec le virus en prison. Mmh. Et là, on le libère et il pourrait infecter des gens à sa sortie de prison. Là.
Ouais.
C'est vraiment dans un but préventif pour la santé de tous et la santé aussi des personnes, des gardiens du personnel du service correctionnel aussi. Là. C'est
ouais.
certain que si on libère une rangée de prison qui est surpeuplée, si on libère une partie de cette population carcérale-là, ça va être plus facile d'assurer une distance entre les détenus. Hein.
Mm-hmm. Et les gens vont se poser la question, est-ce qu'une fois qu'on les a libérés, quand c'est fini, est-ce qu'ils retournent en prison ou est-ce qu'il y a un risque que des gens fuient?
Ben, en fait, ça dépend. Comme je dis, l'exemple que je donne, si la personne, de toute façon, serait libérée dans deux mois,
c'est ça.
Ben, quand deux mois, ça va être fini,
c'est ça. C'est devancer certaines libérations. Et on va y aller sur le côté un peu plus humain. Là. Vous avez, les détenus sont vraiment inquiets. Là. Vous êtes, comme on dit, vous avez beaucoup d'appels. Là.
Oui, puis là aussi, aujourd'hui... Il y aurait, en fait, le journal rapporte qu'il y aurait un agent correctionnel du pénitencier Port-Cartier qui a testé positif à la COVID-19. Mm-hmm. Mais même avant ce cas dans les médias, c'est certain que nous, les avocats, on a eu beaucoup, beaucoup d'appels de craintes parce que, bon, évidemment, en prison, on leur donne pas accès à du liquide désinfectant pour les mains.
Ouais.
Ils ont du savon, mais ils peuvent pas se désinfecter. Les endroits où ils mangent sont pas désinfectés. Donc, en fait, on n'a pas tout désinfecté les pénitenciers. Mmh. Et il demande que même si on coupait les visites des familiales et des avocats, ben les gardiens entrent et sortent aussi du pénitencier. Là, c'est
ben, c'est ça. Puis eux doivent être inquiets aussi, là, tout le personnel là, dans les prisons. Ils doivent demander de l'aide. Je ne sais pas s'il y a des précautions qui sont prises déjà, là, comme à l'hôpital.
Ben, en fait, ce que je comprends, c'est que dans certaines prisons où ils ont ordonné des confinements, le personnel a des mesures de protection, là. Mais dans les pénitenciers, à ma connaissance, il n'y en a pas encore de mesures de protection des gardiens.
Okay.
Et aussi, ce qu'on lit, et je ne sais pas si c'est avéré, mais quand on dans le journal, on lit que le virus peut rester dans l'air, peut rester sur certains objets,
mm-hmm.
c'est certain que le nettoyage, c'est pas...
adéquat.
Le nettoyage n'est pas fréquent. Non, mm-hmm. c'est pas un nettoyage qui est fréquent.
Ben, c'est ça. Puis comme vous m'avez dit aussi, c'est une situation qui évolue beaucoup. Vous faites la demande au gouvernement. Je crois qu'il ne faut pas se cacher les yeux. Il faut gérer cette situation-là parce que ça pourrait devenir très problématique. Et j'espère que le message va se rendre. Merci beaucoup, Maître Rita Mangola, Francis, de nous avoir éclairé sur ce dossier-là là, qu'on parle peu durant la crise. Merci, bonne journée.
Merci.
Bye-bye.